Bienvenue à l'atelier Les clés de la création, un conseil adapté, un premier financement. Donc, on va avoir une présentation, on va la faire de façon très succincte. Déjà dans un premier temps, on va se présenter. Gérald Lassé, je travaille à la région Île-de-France, au conseil régional. Je suis chargé de mission économie sociale et solidaire et je travaille en particulier sur l'entrepreneuriat aussi, dans le cadre de suivi de dispositifs en faveur des créateurs d'entreprises. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous présenter rapidement et ensuite on interviendra. Et l'idée ensuite, c'est de garder un grand temps d'échange avec vous pour que vous puissiez nous poser des questions et qu'on puisse échanger ensemble. Merci.
Bonjour, Isabelle Larognès. Moi, je suis directrice du développement de BGE Paris. BGE, c'est un réseau national d'appui aux entrepreneurs. Où, bon, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais où on accompagne les créateurs de l'idée au projet, puis du projet à la création d'entreprise, avec du conseil, de la formation, des couveuses. Voilà.
Donc bonjour, Cyril Barabon, je suis directeur d'Initiative 95. On est représentant des réseaux Initiative France et France Active dans le Val d'Oise. Voilà, donc le réseau est implanté partout en Île-de-France et je vous présenterai toutes les aides et les actions de ces deux réseaux.
Bonjour, je m'appelle Alice Schneider, je suis créatrice d'entreprise, j'ouvre mon commerce dans 2 semaines dans le 18e arrondissement. C'est un espace culturel autour du livre et de l'image qui s'appelle La Régulière. Et dans ce cadre-là, j'ai été suivie par la BGE Paris, j'ai obtenu le prêt d'honneur de PIE. Et je suis également suivie par les Cigales.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être là ce matin. Merci à vous aussi d'être présent. Donc, on va commencer par une présentation assez rapide sur donc, l'atelier Les clés de la création, un conseil adapté, un premier financement. Donc, le déroulé. On va faire une partie donc, sur la politique de la région Île-de-France en faveur de la création d'entreprises. Une autre partie sera consacrée à les étapes de la création d'entreprise. Je donnerai la parole pour cela à la BGE Paris. On va présenter avec M. Barabon les outils de financement de façon succincte, notamment sur des exemples précis. Et on laissera le témoignage de la créatrice et on échangera avec vous. C'est parti. Donc, la région Île-de-France, donc collectivité locale, grande région de l'Île-de-France. Qu'en est-il en termes d'offres publiques d'accompagnement et de financement de la région Île-de-France, en faveur bien sûr des TPE-PME. Donc, les régions, comme vous le savez, sont chefs de file en matière de développement économique. Les aides à la création, notamment de TPE-PME, qui ce rôle a été renforcé évidemment par la loi NOTRe. La nouvelle orientation, hein, donc l'organisation territoriale. Donc la politique de la région, elle s'intègre dans une chaîne globale d'accompagnement du créateur d'entreprise. Donc les régions ont vocation à compléter l'offre d'accompagnement à destination des TPE-PME. Et sur le volet financement, les banques, bien sûr, demeurent les premiers financiers du secteur. C'est important de le rappeler. Voilà, donc nous, on intervient en effet levier, notamment, pour vous aider. Un dernier point, bah évidemment, sont les partenaires, notamment les partenaires de terrain, les professionnels, comme la BGE Paris. On va voir tout à l'heure le réseau France Active ou Initiative pour M. Barabon. Donc le développement d'entreprises est important pour la région Île-de-France. Comme je vous l'ai dit, c'est un effet levier, notamment sur les financements privés. Donc les aides aux TPE de moins de 3 ans, si on essaye de faire une synthèse aujourd'hui, ce qui se passe à la région. L'accompagnement est un gros volet, notamment. Donc, la région, elle soutient et vous avez donc la possibilité de vous faire accompagner pour finaliser votre projet. On y viendra tout à l'heure avec une présentation, donc, notamment de la BGE. À rappeler que ces prestations sont gratuites, donc d'où l'idée de soutenir, nous, financièrement, la région, ses opérateurs. Vous pouvez faire s'y aider auprès des chambres consulaires d'Île-de-France, qui, je pense, se sont présentes lors de ce salon sur les stands. Et on soutient aussi des lieux de développement. Donc, pour ma part, en tant que chargé de mission économie sociale et solidaire, j'ai en charge les couveuses d'entreprises et notamment aussi les coopératives d'activité et d'emploi. Donc, l'idée, c'est de vous aider pour notamment les couveuses d'entreprises à tester l'activité avant de vous lancer, tout en pouvant avoir un numéro SIRET. Donc, les couveuses, il y en a une dizaine d'opérateurs en Ile-de-France avec des antennes locales, et les CAE pareil. Les CAE, il y a un statut un peu particulier qui est celui de salarié entrepreneur. Donc l'idée, c'est de vraiment sécuriser l'activité et sécuriser aussi votre statut en tant que personne pour, et d'être donc dans une coopérative d'activité. On finance aussi les écoles régionales de projet, des espaces de coworking qui se développent ces dernières années, et des lieux d'innovation, des lieux de conseil et d'accompagnement. Donc vous voyez, la politique à la région en termes d'accompagnement est très large. Un deuxième point, donc, du coup, sur le volet financement. Donc la région, elle soutient notamment quatre grands réseaux qui sont des partenaires de la région Île-de-France, qu'on soutient et qu'on finance. On y viendra tout à l'heure. C'est l'ADI, France Active, Initiative France et le réseau Entreprendre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à la BGE Paris qui va nous présenter succinctement les étapes de la création. C'est parti.
Donc moi, plutôt que de vous présenter ce qu'on fait à BGE, je vais plutôt m'attacher à ce qui vous intéresse le plus, c'est comment on le fait. Et donc, quelles sont les étapes de montage d'un projet de création d'entreprise? Alors, première question, pourquoi préparer son projet après tout? Est-ce que c'est pour soi? Est-ce que c'est pour les autres? Ben, c'est pour les deux. D'abord, c'est pour soi, avoir confiance, trouver un modèle économique, savoir précisément où on va, avoir des objectifs et après être en mesure de les mesurer. Et puis, beaucoup pour les autres aussi, qui vont vous l'imposer, c'est-à-dire donner confiance pour que les partenaires puissent vous suivre. Alors, en termes de méthodologie de création d'entreprise, au départ, on a un créateur, une créatrice, pardon, c'est très sexiste, on a une personne et une activité, une définition d'activité, d'une idée, d'un pré-projet de création d'entreprise. Comment on monte son projet? Ben, y a sept étapes. D'abord, on va détailler après ces sept étapes. L'adéquation entre l'individu, le porteur de projet et son projet. Ensuite, le cœur de l'étude, de tout ce qu'il y a à faire, c'est l'étude de marché. Hein, d'abord, regarder comment le marché est constitué pour définir sa propre stratégie. Donc, troisièmement, l'élaboration de la stratégie commerciale. J'ai envie de dire que quand ces deux points sont faits, l'essentiel du travail est réalisé. Et ensuite, on déroule. Donc, l'étude de moyens à mettre en œuvre pour répondre à la stratégie. L'étude financière, l'étude juridique et enfin l'étude d'implantation. Tout ça, c'est une étude d'un projet pour faire un diagnostic. À l'issue de ce diagnostic, où vous avez décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire créer directement ou alors faire un test en couveuse, ou alors revoir ou abandonner le projet parce qu'on a rencontré des problématiques. Premier point, adéquation individu-projet. Les principales questions à se poser, c'est quelle est mon expérience, quelles sont mes compétences. Est-ce qu'il me manque quelque chose par rapport à mon projet? Donc, est-ce qu'il faut que j'envisage de me former sur certains aspects? Quelles vont être les conséquences de la création de cette entreprise et du fonctionnement de cette entreprise sur ma vie personnelle? Et ensuite, quel soutien je vais pouvoir mobiliser? Le point essentiel sur lequel on doit vraiment faire aucun... on doit vraiment travailler, que vous devez véritablement travailler... en détail, c'est l'étude de marché. Vous arrivez sur un nouveau marché, votre entreprise demain va intégrer un nouveau marché, vous ne pouvez pas faire l'économie d'une étude de marché. Donc vraiment l'étude de marché, c'est comment est constitué ce marché pour savoir où moi je vais. Alors en quelques mots, l'étude du marché, c'est d'abord l'étude de l'environnement, le cadre réglementaire, les chiffres, comment est ce marché, combien il pèse, quelles sont les tendances. Ensuite, autant recommencer par regarder ceux qui vous ressemblent, donc les concurrents. Qui sont les concurrents? Ils vendent quoi? Comment? Pourquoi? À quel prix? C'est quoi leurs conditions? Etc. Et puis leur situation financière. Et les clients. Aujourd'hui, les clients qui achètent les produits ou les services que vous allez vendre demain, bah, qui sont-ils? Comment ils consomment? À quel prix? Quelles sont leurs habitudes de consommation? À quels besoins répondent les produits, les services qu'ils achètent aujourd'hui et donc les vôtres demain? Ensuite, les fournisseurs, rechercher les fournisseurs le plus tôt possible, connaître leur situation financière et leurs conditions. Et puis les prescripteurs, tous les réseaux commerciaux, les partenaires qui seront susceptibles de vous envoyer des clients. Une fois que vous avez pleine maîtrise de ce marché. Le marché est constitué comme ça, donc moi je vais définir mon positionnement, définir ma stratégie commerciale. C'est bien parce que le marché est structuré comme ça que je pense trouver ma place en vendant tel produit ou tel service. Ça veut dire qu'il peut y avoir une évolution entre votre idée première et ce que vous allez faire au final. C'est ce qu'on appelle la règle des 4 P. Hein. Quel produit ou service, à quel prix, quelle pub, quelle publicité, comment je vais me faire connaître et quel placement, quel mode de distribution. C'est le cœur de votre projet. J'ai envie de dire que quand ça, c'est défini, en fonction de la réalité du marché, l'essentiel de la structuration du projet est fait, et ensuite on va dérouler. Donc, pour que ce projet existe et que cette stratégie commerciale puisse être mise en place, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de quoi ? Bah, des moyens techniques, du matériel, un véhicule, du stock, de la bureautique. Je liste tout ce dont j'ai besoin et je chiffre. Moyens humains, est-ce que j'ai besoin de gens autour de moi ? Je verrai après si je les salarie ou pas. Quel poste, quel profil, etc. Je les définis. À partir du moment où j'ai fait mon étude technique, je peux passer à l'étude financière. L'étude financière, il faut comprendre qu'il y a deux logiques. Première logique, c'est vérifier si mon projet est faisable financièrement. Est-ce que je peux le payer, en fait ? Donc, j'ai listé tous les besoins que j'avais en termes de matériel, de stock, etc., de local. Ben, combien me coûte tous ces besoins et comment je les finance ? Je les finance par mes apports personnels, ceux de mes associés si j'en ai, ce que je peux emprunter, ce que je peux me faire donner, ce que je peux lever comme fonds par des plateformes de crowdfunding par exemple. Est-ce que je peux financer mon projet ? Est-ce que je peux mobiliser les ressources indispensables pour financer mes besoins ? Ça c'est la première logique. Et la deuxième logique financière, c'est une fois que l'entreprise a ouvert, la viabilité financière de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle un compte de résultat. Quel chiffre d'affaires je vais devoir générer pour faire face à mes charges et dégager un revenu. Et cet objectif de chiffre d'affaires, où il vous fait peur, où il vous rassure, et on peut le comparer aussi avec les chiffres d'affaires réalisés par vos concurrents que vous aurez étudiés pendant votre étude de marché. Ensuite, le choix juridique. C'est souvent une question qui angoisse beaucoup les créateurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que la forme juridique, c'est la dernière étape, c'est la coquille qui emballe le tout. Donc, vous ne prenez pas trop la tête si vous êtes au démarrage de votre projet sur la forme juridique. Travaillez d'abord l'étude de marché, la stratégie commerciale. Et souvent, la forme juridique, elle s'impose d'elle-même. Et elle dépend d'un certain nombre de critères, tels que la nature de l'activité, la volonté ou non de s'associer, votre situation patrimoniale, les besoins financiers, votre crédibilité vis-à-vis des partenaires. On voit des entreprises qui pourraient tout à fait se lancer en entreprise individuelle, mais tout le monde attend des sociétés et se mettent en société. Le régime fiscal, les implications du coût fiscal vous allez avoir à payer en fonction du choix que vous avez fait. Le régime social, toutes les charges de sécurité sociale, en fonction si vous êtes indépendant ou assimilé salarié. Et puis le fonctionnement de l'entreprise et surtout le risque encouru. Est-ce que je suis payé à crédit ou pas ? Et est-ce que j'engage beaucoup d'argent avant de pouvoir en toucher ? Et ensuite, on finit l'étude d'implantation, alors qu'intervient bien sûr tout au long du processus. Où est-ce que je m'implante ? Est-ce que c'est un local commercial ? Est-ce que je travaille à domicile ? Est-ce que c'est une pépinière ? Est-ce que j'intègre un espace de coworking ? Est-ce que je travaille dans une autre entreprise ? Et pourquoi pas autre chose à inventer ? On voit que de plus en plus de choses se mettent en place et de nouveaux partenariats entre les entreprises se développent pour inventer de nouvelles façons d'habiter ou de cohabiter. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est cette étape, vous pouvez conclure l'étude de votre projet. Est-ce que mon projet il est réaliste ? Est-ce qu'il est faisable ? Est-ce qu'il semble rentable ? Est-ce que ça me fait peur ou pas ? Et est-ce que je continue ? Est-ce que je vais vraiment plus loin ? C'est-à-dire, je vais aller formaliser mon projet et puis aller lever des capitaux ? Est-ce que je reporte parce que j'ai rencontré un petit point de blocage ou est-ce que j'abandonne parce que finalement il n'y a pas de marché, après pour X ou Y raison, il n'y a pas de marché, je ne peux pas lever les financements, ce n'est pas assez rentable, etc. Si vous décidez d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous poser la question sur la formation, qu'est-ce qui me manque en termes de compétences ? J'ai fini d'étudier mon marché, je vois bien là où je suis le plus faible. Vous devez absolument savoir maîtriser 5 points, d'abord savoir produire. Le boulanger fait du bon pain, le menuisier des beaux meubles. Ben vous devez être un professionnel dans votre secteur d'activité, donc vous devez savoir produire et ou acheter. Un commerçant, il ne produit pas, mais il achète. Souvent, les gens arrivent avec un métier de base, donc ils savent tout à fait produire. Donc là, maintenant, c'est est-ce que vous savez vendre et communiquer? Comment vous allez faire pour trouver des clients, pour vous faire connaître? Savoir gérer votre entreprise, savoir l'administrer et savoir manager si vous avez des salariés. Donc là, il va falloir aussi évaluer vos besoins de formation et suivre des modules de formation si besoin. Donc moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est bien sûr, faites-vous aider. C'est bien d'avoir du recul et d'avoir le regard d'un professionnel sur votre projet d'entreprise. Et pour ça, il y a tout un réseau d'appui d'acteurs à votre service, que ce soit les structures d'accompagnement donc comme BGE, mais aussi les centres ressources. Vous avez beaucoup de centres de documentation. Vous avez la Cité des métiers, vous avez énormément de bibliothèques spécialisées. Vous avez les couveuses et les incubateurs. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus, on pourra voir tout à l'heure. Des experts, des consultants sur des secteurs d'activité, sur des aspects plus pointus comme le juridique, l'exportation ou autre. Des structures de soutien financier. Cyril va nous présenter tout de suite l'ensemble des aides financières que vous pouvez mobiliser. Des réseaux d'entraide, des clubs de créateurs, etc. Voilà, faites-vous aider.
Donc, merci beaucoup. Donc un site web pour la BGE Parif, voilà. Donc
voilà, bge-parif.com, et vous avez des BGE dans tous les départements franciliens et dans toutes les régions de France.
bge-parif.com.
Voilà, et sur les autres régions, bge.asso.fr, vous tapez BGE, vous allez toujours trouver une BGE à côté de chez vous.
Donc merci beaucoup, je vais laisser la parole à Monsieur Baraban, qui est directeur d'Initiative France. Qui va nous présenter
non, Initiative 95. Oui, peut-être plus tard, mais...
Allez, Val-d'Oise, c'est voilà. Un grand département.
Donc, on est représentant de ces deux réseaux dans le Val-d'Oise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces réseaux interviennent partout en France. Il y a plus de 200 plateformes d'initiatives locales et 40 fonds territoriaux France Active. Donc, le territoire national est couvert. Initiative dans le Val-d'Oise, l'année dernière, c'est 276 entreprises soutenues, plus de 500 emplois créés. On a sur fonds prêts d'honneur financés par la région ou sur fonds de garantie, on a financé 4 millions d'euros sur ces fonds aux entreprises du Val-d'Oise, et ces 4 millions d'euros ont permis de lever 12 millions d'euros auprès des réseaux bancaires. Voilà, donc nous, notre métier, c'est de donner accès aux prêts bancaires et de faire effet de levier sur les financements bancaires. Alors, il y a des grandes modes, le crowdfunding, etc. Donc tout ça, c'est hyper important. Hein, ça permet de bien communiquer, de mobiliser un réseau. Mais quand on arrive dans le dur sur la partie financière pour financer le projet de création d'entreprise, la banque reste quand même encore incontournable. Et les entrepreneurs ont des difficultés d'accès la plupart du temps au financement bancaire. Nous, on est un outil de limitation du risque pour la banque. Voilà, donc, à travers notre expertise et notre appui, la banque, quand on suit un dossier, dans 95% des cas, la banque va intervenir derrière. Alors, en fait, les appuis, c'est du financement, mais c'est aussi de l'appui au développement. Parce qu'en fait, une fois que le projet est créé, c'est là où tout commence. Et notamment les ajustements nécessaires. Donc en fait, nous, on est là en appui, on dispose de groupes d'appui au développement pour vous permettre soit de traiter des difficultés éventuelles, soit d'être accompagné via du parrainage, soit d'être mis en réseau avec d'autres chefs d'entreprise. Donc cet appui au développement, il est important, et on fait aussi des financements en premier développement, ou en croissance. Donc on intervient sur les 5 à 7 premières années d'activité, et notre projet stratégique, c'est d'accélérer les TPE et de faire en sorte qu'elles puissent se développer et créer plus d'emplois. Donc quand vous venez chez nous, souvent c'est une fois le travail BGE fait, ou le travail fait par une chambre de commerce, ou par un expert comptable, ou par vous-même, vous avez un business plan. Nous, on va expertiser ce business plan, on va l'étudier en détail. Et ensuite, vous allez venir présenter votre projet devant un comité d'agrément qui va décider de l'accord ou du refus des financements. Donc, c'est vous-même qui venez pitcher et défendre votre projet. Donc, nous, on a fait une note de synthèse. Hein, donc, on a des axes d'expertise et d'analyse. mais c'est vous qui venez devant les comités d'agrément pour défendre votre projet. Et donc, une fois ce comité réalisé, il n'y a plus de son, là, j'ai l'impression aussi.
Si, ouais.
Une fois ce comité mobilisé, vous avez les financements dans le mois qui suit. Quoi. Voilà, donc nous, on débloque tous les prêts à taux zéro le plus rapidement possible et la banque intervient en second temps.
Très bien, je vous remercie. Donc, je vous propose de passer à des outils de financement adaptés pour les créateurs de TPE. On va vous présenter vraiment de façon très brève quatre outils. Donc, déjà, pour bien que vous compreniez le mécanisme, combien avez-vous besoin? Donc, si vous avez besoin de moins de 10 000 euros donc, et que vous n'aviez pas accès aux prêts bancaires pour différentes raisons, donc, il existe le microcrédit de l'ADI. C'est l'association pour le droit à l'initiative économique que la région soutient. Vous avez besoin de plus de 10 000 euros, deuxième cas de figure, donc il y a les prêts d'honneur, comme vous l'avez mentionné. Donc ces prêts d'honneur, il y a Initiative France ou Réseau Entreprendre. Il y a deux réseaux. L'idée, c'est de renforcer son apport personnel. Et d'un autre dernier point, c'est la garantie bancaire qui est celle de France Active pour cette fois faciliter l'accès aux prêts bancaires. Donc rapidement, l'ADI, c'est pour qui? C'est les micro-entrepreneurs qui ont un accès limité au crédit. Donc maximum 10 000 euros. Pour financer ses besoins de trésorerie, par exemple, pour des investissements, des achats de stock. Donc, l'idée, c'est d'un prêt, donc, remboursable sur 48 mois maximum, donc 4 ans. L'avantage, c'est donc facilité d'obtention, un délai rapide. Vous avez des conseillers ADI dans les territoires et vous obtenez un prêt, soit à la création ou au développement. D'ailleurs, vous pouvez soit déjà commencer par la création et obtenir un second prêt ensuite au développement. Donc un numéro, le plus simple, c'est 0800 800 566, ou sur internet, c'est adi.org. Je vais laisser Monsieur Barabon sur la garantie bancaire France Active.
Alors pour France Active, on est sur des créateurs qui créent leur propre emploi la plupart du temps, mais on peut aller sur des projets plus ambitieux. Le montant maximum, la garantie est de 45 000 euros. Et la quotité de 65% maximum. Donc voilà, on est sur des gammes de prêts bancaires qui vont entre 60, 70, 80 000 euros. On peut avoir des prêts à 100 000 euros où la banque prend 45 000 euros de caution chez nous. Donc c'est des prêts de 3, sur 3 à 5 ans. Et le coût de la garantie est quand même très faible. Donc c'est un outil de limitation du risque pour la banque, mais pour vous aussi, puisqu'on limite les cautions solidaires à 50% du montant de l'emprunt. Et pour les femmes créatrices, via le fonds de garantie à l'initiative des femmes, les cautions sont égales à zéro. Donc cet aspect-là est important, parce que la caution solidaire peut être poursuivie après la liquidation d'une entreprise. Donc c'est l'engagement juridique maximal. Donc si vous pouvez limiter vos cautions solidaires personnelles, ça c'est le conseil. C'est vraiment un outil essentiel de négociation avec la banque, beaucoup plus que le taux. Souvent, on va voir la banque pour parler du taux. La caution solidaire, c'est beaucoup plus important. Et plus vous allez limiter votre caution, plus vous allez limiter votre risque personnel.
Donc, sachez qu'il y a 8 fonds territoriaux en Ile-de-France, un par département. Donc, la région se doit aussi de mailler le territoire. C'est son rôle d'acteur public. Et vous pouvez retrouver les informations sur franceactif.org. Le prêt d'honneur initiative Île-de-France.
Voilà, alors pour les plateformes, on fait des prêts à taux zéro jusqu'à 30 000 euros. On a aussi des gammes de financement sur la reprise ou sur le développement, donc avec des prêts à taux zéro qui vont jusqu'à 50 000 euros. Donc tout ça, c'est appuyé par la région Île-de-France, bien sûr. On peut coupler les outils de financement avec NACRE et France Active. Donc c'est des outils qui sont complémentaires. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt sur le prêt d'honneur, qui est un prêt personnel. Donc on vous prête, c'est à titre personnel, on ne fait pas de prêt à l'entreprise, c'est de l'argent qui va arriver sur votre compte personnel et que vous allez apporter à l'entreprise.
Très bien, donc pareil, il y a 14 plateformes en Ile-de-France, dont 22 points d'accueil, donc au plus près de votre implantation au niveau de l'entreprise. Et vous retrouvez les informations sur initiative-ile-de-france.fr. Dernier réseau, c'est le prêt d'honneur Réseau Entreprendre. Donc, il s'adresse aux créateurs et repreneurs d'entreprises créées au moins de 3 ans pour financer, pareil, ses fonds de roulement, et les investissements immatériels. Donc là, on est sur 50 000 euros remboursables sur 5 ans. Donc pareil, c'est pas d'intérêt sur le prêt ni garantie, et on facilite bien sûr l'obtention d'un prêt bancaire de façon complémentaire et obligatoire. Donc on en a 9 plateformes en Ile-de-France du réseau Entreprendre qui est soutenu par la région, et vous retrouvez les informations sur internet réseau-entreprendre-ile-de-france.fr. Voilà, donc merci pour votre attention. Pour la région, avant de céder la parole à la créatrice, vous retrouvez les informations à la région sur le site ile-de-france.fr et un numéro Azur 0810 18 18 18. Vous retrouvez toutes les informations sur notamment l'accompagnement et le financement. Merci de votre attention. Et maintenant, on va peut-être, le plus important, laisser la parole s'exprimer Alice Schneider, qui est fondatrice et créatrice d'une librairie café, je crois, La Régulière, sur Paris. Je lui laisse la parole.
C'est ça. Alors, c'est un peu étrange pour moi déjà de faire un compte-rendu parce qu'on n'a pas encore ouvert. On ouvre dans 2 semaines. Donc, ce sera plutôt un petit compte-rendu de l'année qui s'est passée, des étapes qu'on a dû affronter avec mon associé pour créer notre société. Ça a commencé il y a un an avec une de mes meilleures amies que je connais depuis très longtemps. Et on avait toutes les deux envie depuis un bon moment de monter un projet à deux. On ne voulait plus travailler pour quelqu'un d'autre et on avait envie de s'intégrer dans le quartier dans lequel on vivait et de proposer quelque chose de nouveau. Donc un peu comme l'a dit Isabelle, les premières étapes ont été d'imaginer le projet, de voir ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait envie de faire et si c'était possible. L'étude de marché n'a pas été facile à faire parce que ni elle ni moi n'avions de connaissances en économie, en droit ou quoi que ce soit. Donc on a beaucoup lu et on s'est beaucoup baladé dans le quartier. Après, assez vite, on s'est confronté donc vraiment au dur du projet, c'est-à-dire l'argent. Et là, on a vraiment eu besoin de soutien. Et là, du coup, je rejoins ce que disait Isabelle, qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Au début, c'était de l'aide tout simplement de la part d'amis qui étaient comptables ou qui ont fait des études de droit ou des choses comme ça pour avoir un premier regard et qui nous ont aidés à monter le projet de notre côté seul. Et là, on a commencé à aller rencontrer les différents interlocuteurs auxquels on a eu affaire tout au long de l'année. Donc la mairie, la région, l'État, les ministères, tout ça. En plus, comme c'est une librairie, il y a beaucoup de services dédiés aux livres en ce moment en France. Donc on a dû aller rencontrer toutes ces personnes pour tester un petit peu le projet et voir ce qui était possible ou pas. Et du coup, on a commencé à visiter des locaux. Et le jour où on a obtenu le local qu'on voulait, grâce à la mairie de Paris, là, tout est allé beaucoup plus vite. Et on a dû débloquer, en fait, tout ce qui était très abstrait jusqu'à présent a dû être débloqué assez rapidement et sans forcément réussir à prendre beaucoup de recul. Mais heureusement, ça s'est couplé avec la période où moi, j'ai quitté mon travail, donc j'ai pu rentrer dans le programme NACRE. Et donc, j'ai commencé à être suivie par la BGE, qui a pu relire notre dossier financier, qui a pu l'affiner, qui nous a aidé à passer en commission pour le prêt d'honneur de Paris Initiative Entreprise plus rapidement. Ils ont pu pousser sur pas mal de choses. Ils nous ont même aidé à négocier le bail commercial. Et voilà. Et du coup, les éléments ont pris du temps à se débloquer. Mais c'est vrai que le fond du problème est toujours... ça reste les finances. Après, les compétences de chacun, en général, sont... On les connaît, on peut les pallier, on peut faire des petites formations, des choses comme ça. Par contre, c'est vrai que l'aspect financier est vraiment très important. Et là, il ne faut pas hésiter à aller se faire accompagner. Mais ça peut aussi bien être avec des amis que des organismes. Et en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en France pour se faire aider. Donc, il ne faut pas hésiter.
Merci pour ce témoignage. En effet, l'accompagnement est essentiel dans la réussite de son entreprise. On le sait, pourtant, je crois qu'il y a des chiffres qui sont sortis, il n'y a même pas la moitié des entreprises qui sont aidées, je crois que c'est 30% de cet ordre-là. Donc en effet, notamment la région ou d'autres organismes vraiment soutiennent l'accompagnement. C'est important, plus vous êtes accompagné, plus vous avez de chances de réussir le projet, en tout cas à court terme et à moyen terme bien sûr. Donc la parole est à vous, peut-être sur des questions qu'on a déjà vues ou alors sur d'autres questions qui vous intéressent par rapport à votre projet. Il marche, oui, c'est bien.
Bonjour, donc je m'appelle Aurélien. Je voulais revenir juste sur un petit point concernant les prêts d'honneur notamment, parce que j'en ai entendu déjà parler, j'ai rencontré des gens de chez BGE, France Active, un peu tous les réseaux, et quand j'ai rencontré les banques, notamment sur le salon aussi, en leur parlant du prêt d'honneur, ils ne l'assimilent pas à de la caution personnelle. Ils nous disent que de toute façon c'est de l'argent qu'on doit rembourser et qu'on ne peut pas l'assimiler à de la caution personnelle, ce que j'avais compris
ça,
aussi.
Ça dépend des réseaux bancaires. D'accord. Alors certains réseaux bancaires vont le considérer comme de l'endettement et d'autres vont le considérer comme des quasi-fonds propres. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est un prêt qui est personnel. Oui. Donc ça rentre dans votre endettement personnel. La banque va faire une analyse de votre endettement personnel quand vous allez la voir, si vous avez un crédit immobilier, un crédit voiture, un crédit conso, etc., que vous êtes déjà un taux d'endettement de 40 ou 45%, c'est clair que nous, on va analyser ça aussi et le prêt d'honneur va être difficile à débloquer si on accroît votre endettement personnel. Donc voilà, il y a une analyse globale qui est faite. Il y a des réseaux bancaires qui considèrent que c'est de l'endettement pro, mais ça dépend. Nous, on a pas mal de réseaux bancaires aussi qui le considèrent comme de l'apport personnel, en fait. Donc, je ne sais pas quelles sont les banques que vous... Il y a 8 banques, en fait, avec lesquelles on travaille très régulièrement. La plupart du temps, quand on intervient, ils ne vont pas se demander si c'est personnel, pro... Le projet est validé, ils vont suivre derrière. Vraiment, moi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est quand vous avez de l'apport, gardez-le bien au chaud et venez nous voir. Voilà. Parce que souvent, il y a des grandes modes dans l'accompagnement à la création d'entreprise en ce moment, donc le crowdfunding et puis toutes les techniques d'accompagnement du style lancez-vous et puis vous allez tester et puis vous allez recadrer votre projet. Ça s'appelle l'effectuation, en gros. Nous, on trouve ça assez sympa, mais pour aller voir la banque, vous ne pourrez pas échapper à un business plan bien construit et une réflexion sur le projet. Et d'avoir de l'argent de côté et ne pas engager d'argent avant de se lancer, moi, ça me paraît un point essentiel. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui injectent de l'argent. Et puis ensuite, ils viennent nous voir en nous disant on a besoin de prêts pour nous développer. Et là, nous, ça bloque, en fait. Donc, c'est garder cet argent sur votre compte perso. Venez nous voir et nous, on va vous aider à caler correctement le plan de financement avec les outils qui vont bien, les prêts à taux zéro, les garanties, les prêts bancaires, pour maximiser la levée du prêt bancaire et vous permettre de réussir. La banque, c'est un partenaire clé, c'est un fournisseur, mais c'est aussi, si la banque ne vous suit pas, vous ne pourrez pas vous développer. Voilà, donc c'est un élément central dans la création d'une entreprise.
D'accord, merci. Juste une dernière petite question rapidement concernant juste mon cas personnel, mais c'est, ça peut aider pas mal de gens. Quand on se retrouve à un moment où on est dans la partie structuration de son projet, on a besoin de formaliser son business plan, tout ça, ce que j'ai vu avec BGE d'ailleurs déjà. Aujourd'hui, en étant chez Pôle emploi, on a rien qui permet de l'avoir gratuitement parce qu'on nous propose des rendez-vous payants chez BGE parce qu'on n'est pas encore dans le dispositif NACRE. Et comme le disait la créatrice d'entreprise, c'est qu'à partir du moment où on a trouvé son fonds de commerce, que là, ça peut s'activer. Mais avant, on est dans une période où on n'a personne qui peut nous aider gratuitement, je parle. Après, les cabinets d'expertise comptable peuvent nous proposer des solutions, mais c'est payant. Moi qui ai déjà financé ma formation, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus envie de mettre d'argent là-dedans, parce que je garde mon argent justement pour mon projet. Et on nous dit aujourd'hui, Pôle emploi nous dit, la région nous a supprimé les fonds, les financements, on ne peut plus vous aider gratuitement, il faut trouver un organisme d'accompagnement, mais les organismes d'accompagnement, c'est payant. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque à cet endroit-là, avant de financer et après avoir affiné son projet.
Juste par rapport au marché Pôle emploi, ils viennent juste d'être lancés. Alors c'est vrai que Pôle emploi a positionné plutôt sur l'émergence de projets. Dans la réalité, le besoin des créateurs, c'est sur l'accompagnement. Donc, je vous conseille de revoir votre agence Pôle emploi, parce que les choses sont un peu en train de changer, et vous pouvez... Sinon, venez me voir, et on en discutera.
Alors, sur la partie, sur nos activités, la région nous finance et on ne facture rien aux entrepreneurs. Donc, sur les 276 entreprises soutenues l'année dernière, on n'a procédé à aucune facturation. Voilà. Donc, là, en fait, même si vous êtes salarié, PIE, par exemple, sur Paris, ou Haute-Seine Initiative, ou Initiative, va étudier le dossier, va l'expertiser, et va mettre en œuvre des prêts à taux zéro, et vous donner accès à du prêt bancaire, tout ça, c'est totalement gratuit. Voilà. Donc, pour la partie financement et l'appui au développement, après, sur la partie accompagnement, effectivement, c'est comme les experts comptables, hein, ils font le montage du business plan aussi, les prévisionnels, tout ça, ça a un coût qui peut être intégré dans le plan de financement au démarrage.
Merci pour cette question, en tout cas, on a bien compris. C'est peut-être une question que vous aviez, je crois.
Oui, oui. Samir, j'ai une question. En fait, moi, je connais l'AFE et BGE, je ne connaissais pas. Et je voulais savoir la différence entre l'AFE et BGE.
Ça n'a strictement rien à voir. Agence France Entrepreneur, anciennement APCE, c'est une agence nationale. Donc, c'est entièrement financé par l'État. Ils ne font pas de conseils, mais vous avez vu qu'ils donnent énormément de conseils en ligne. Il y a un site internet très développé. C'est une mine d'informations. Nous, on renvoie beaucoup, beaucoup nos créateurs pour aller chercher de l'information sur ce site. Tout n'est pas gratuit. Vous avez aussi des fiches professionnelles qui sont payantes. Et quand je vous parlais de l'étude de marché, combien la partie réglementaire, la partie... je veux savoir combien il y a d'entreprises, combien ça pèse, les évolutions, est-ce que le marché est en croissance. Voilà, là, vous trouvez ça sur les fiches professionnelles qui sont en accès payant et que vous pouvez d'ailleurs voir dans les centres documentaires tels que la Cité des métiers et la Villette. Vous pouvez au moins les consulter et voir si elles vous intéressent, les acheter dans un second temps. Donc, c'est une agence entièrement liée à l'État, qui donne de l'information, qui fait énormément d'études, il y a un observatoire, toutes ces fiches professionnelles, ça veut dire qu'il y a régulièrement, elles sont remises à jour, les liens avec des fédérations professionnelles, voilà. Mais c'est uniquement en ligne où on peut acheter les documents. Nous, on ne publie pas de documents à BGE, nous, c'est du conseil, c'est du face-à-face, c'est de la formation. On est un réseau autonome, on est des associations, donc on est aussi des petites entreprises. Donc on dépend bien sûr des partenariats avec beaucoup d'organismes publics, l'État, la région, les agglomérations. Mais on est une initiative tout à fait privée, avec des liens, avec des collectivités qui estiment que notre action est utile et du coup qui financent une partie de nos activités. Et on essaye bien sûr de recevoir tous les créateurs. Alors après, je peux vous dire, à BGE Paris, on est 50 salariés. On doit avoir à peu près 150 conventions sur nos 6 départements pour essayer à chaque fois dire, alors monsieur, il est demandeur d'emploi, il habite telle ville. Voilà, dans quelle convention on peut le rentrer.
Peut-être redonner un peu vos lieux d'implantation rapidement.
Nous, on est sur Paris, on est rue du Faubourg du Temple, 18 rue du Faubourg du Temple. Le mieux, c'est d'aller véritablement voir sur le site, poser des questions. Et après, on a 45, j'en ai raconté, là, je ne sais plus, 45 lieux d'implantation sur 6 départements. Ouais. Il y a 2 autres BGE, donc on doit être en tout à une soixantaine de lieux. Alors, des fois, on y est un jour par semaine, hein, dans la ville, l'agglomération. Qui,
des permanences, donc, en effet.
Voilà, ça. Des permanences. Et si à un moment, vous hésitez, vous ne savez plus où aller, vous êtes perdu, je vous renvoie toujours vers un lieu qui est gratuit, anonyme, sans rendez-vous, qui est la Cité des métiers, porte de la Villette, où il y a un pôle qui s'appelle Créer son activité. Et là, vous pouvez venir poser vos questions. On ne vous accompagnera pas à faire l'étude de faisabilité, mais on répondra à vos questions, on cernera votre besoin. Et on vous réorientera vers un organisme, un dispositif qui répondra à votre question.
Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être aussi à la créatrice. C'est intéressant d'avoir son regard. Là, elle va ouvrir dans un peu de temps. Oui, monsieur.
Bonjour. Je m'appelle Stéphane. Tout d'abord, merci pour votre conférence. J'étais un peu dans le même cas que vous, la créatrice. Je voulais justement savoir le basculement de votre statut salarié vers une activité à 100% sur la création de votre entreprise. À partir de quand vous l'avez décidé, si ça a été arbitrairement, si ça a été une opportunité ou les conseils que vous avez à ce niveau-là?
J'ai pas vraiment de conseils parce que j'avais décidé de quitter mon travail dans tous les cas. Donc j'ai annoncé en décembre à mon travail que je voulais partir et on a eu plusieurs mois d'âpres négociations pour que je puisse avoir une rupture conventionnelle. Et c'était la condition obligatoire pour que je puisse avoir mon chômage tout en créant mon entreprise parce que sinon j'avais pas assez de fonds pour investir et en même temps subvenir à mes besoins. En mars j'ai signé ma rupture, je suis partie en mai et on a eu l'accord officiel pour le local fin juin. Donc il y a eu un mois de battement où j'étais, je travaillais sans trop savoir si ça allait se passer ou pas et j'avais d'autres idées en tête. Et fin juin, on nous a dit OK pour le local et du coup à ce moment-là, je me suis inscrite du coup à Pôle Emploi, j'ai commencé à toucher mes indemnités, j'ai contacté la BGE, je suis rentrée dans le NACRE et voilà. Et du coup ça s'est goupillé comme ça. Mais en tout cas c'est le meilleur conseil à donner parce que maintenant on peut toucher son chômage tout en créant son entreprise, ce qui est une chance incroyable, donc il faut pouvoir en profiter.
D'accord, merci.
Merci. Oui, en effet, donc en France, c'est une volonté des pouvoirs publics, en tant que demandeur d'emploi, l'idée c'est de créer son propre emploi, donc la plupart des dispositifs qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est l'idée de créer son propre emploi et donc vous aider tout en continuant d'avoir vos droits indemnisation au chômage. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est un moment important, on a un petit comité. Oui, encore une autre?
Donc là, mon autre question, ça concerne plus
près du micro.
Ça concerne plus directement les financements pour l'aide à la création d'entreprise. Vous avez beaucoup parlé de contracter des emprunts avec les banques, etc. Je voulais savoir justement s'il y avait d'autres leviers. Vous avez parlé de crowdfunding, mais je ne sais pas s'il y a d'autres leviers aujourd'hui qui sont possibles, justement pour pas.
Alors, il y a plutôt direct, c'est ça ?
Il y a la principale aide, c'est la RCE en fait qui est versée par Pôle Emploi. Mais bon, il faut choisir de demander 45% de vos indemnités au chômage. Je crois que c'est 40 ou 45%. Ça a été modifié dernièrement. C'était à 50 et je crois que c'est passé à 45. Donc là, c'est une somme qui vous est versée directement. Et après, il n'y a plus d'allocation de retour à l'emploi. Voilà, donc ça, c'est le dispositif principal de subvention. En fait, ce n'est pas vraiment une subvention, c'est on vous verse 45% de vos indemnisations chômage.
En une seule fois, quoi, voilà. En one shot.
Ça, c'est surtout très intéressant quand on reprend une entreprise.
C'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, c'est ça,
ARCE, ouais, aide à la reprise et à la création d'entreprise, ouais, je crois que c'est ça. En fait, c'est intéressant quand on reprend, puisque une reprise, vous allez générer une rémunération beaucoup plus rapide, en théorie. Il faut, si la reprise se passe bien, mais en général, ça se passe plutôt bien. Donc votre niveau de rémunération est important, donc il vaut mieux toucher cette prime au démarrage. Par contre, si vous créez de toutes pièces votre activité, les montées en charge sont beaucoup plus longues. Il faut compter 1 à 2 ans avant de... Nous, on le voit, on a des atteintes de seuil de rentabilité à 9 mois, 12 mois. Donc il faut avoir les reins solides pour tenir le coup. Et l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle Emploi, c'est une aide aussi pour tenir sur cette période-là. Mais après, il y a des concours. Vous pouvez postuler à des concours avec des primes. Il ne faut pas le voir uniquement comme un intérêt financier. Il faut aussi le voir comme un intérêt en termes de communication, de réseau. Nous, on a des créatrices d'avenir qui ont été primées dernièrement. Ça leur a développé un réseau monstrueux grâce à la presse et à la communication qui a été faite autour des concours. Mais à part ces systèmes-là, la voie principale, ça reste quand même la banque. Parce que sur le crowdfunding, en don contre don, Les campagnes, c'est 3, 4, 5 000 euros, mais ça. Bon, là, c'est 10 000. Bon, voilà, mais quand on doit financer un projet à 100 ou 150 000 euros, la banque, ça reste l'interlocuteur privilégié. D'ailleurs, la banque, c'est aussi, elle est là aussi pour vous donner accès à des moyens de financement, de paiement. C'est un fournisseur comme un autre. Donc, le fait qu'il soit présent au moment de la création, c'est hyper important.
Un dernier point.
Juste un petit mot, oui. Alors, ça peut faire peur. L'emprunt peut faire peur. Et c'est normal, et c'est logique. Hein, c'est après, voilà, quel chiffre d'affaires je vais générer pour pouvoir faire face à mes charges, rembourser le banquier et me rémunérer. Donc, effectivement, il faut pas se louper. Vaut mieux bien anticiper avant, parce qu'un banquier, vous venez le voir et vous dites, ben voilà, j'ai besoin de temps, puis vous revenez deux mois après, j'ai besoin de temps. C'est quoi ce gestionnaire? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment bien anticiper. C'est pour ça que Cyril disait, si vous avez un peu d'argent, mettez-le à gauche, parce qu'au moindre problème, au moindre imprévu, il faut quand même avoir un petit peu de trésorerie, parce que vous n'allez pas pouvoir retourner chez les financeurs pour dire, il me manque un morceau, il me manque une somme, vous allez passer pour quelqu'un de pas sérieux du tout. Et après, effectivement, si les montants sont trop élevés, vous avez plusieurs solutions. Vous dire, je reporte mon projet dans le temps et ben, je fais des économies. Pour demain, quand j'emprunterai moins. Et puis, une autre façon, c'est aussi de faire rentrer des associés. Alors, ce n'est pas forcément des gens que vous ne connaissez pas, mais ça peut être aussi des gens autour de vous. Si chacun met 2000 ou 5000 euros, et, voilà. Mais après, c'est une partie du pouvoir qui vous échappe. Voilà. Donc il y a effectivement d'autres solutions. Ou faire appel à des financeurs extérieurs, mais qui prendront des parts dans la société. Et souvent, le créateur, il veut tout. Il veut le pouvoir, il veut l'argent, il veut bien partager, mais pas le pouvoir.
Juste un chiffre. À 5 ans, la santé, la survie des entreprises à 5 ans, on est plutôt dans les 45%. Quand l'entreprise accède au financement bancaire, on est plutôt à 75 ou 80% dans nos réseaux. Donc c'est clair que le prêt bancaire, c'est un moyen de solidifier le projet. On a beaucoup d'entrepreneurs qui partent en se disant bah, « je vais autofinancer mon entreprise à 100% », mais ils se privent d'un levier de développement qui est essentiel, quoi.
Merci. Une dernière question avant de libérer la salle. N'hésitez pas. Pas d'autres questions, des précisions, notamment sur la créatrice. On l'a vu, donc elle s'est entourée d'un associé, c'est ça? Vous êtes deux fondatrices, en fait. Et elle est venue dès le démarrage du projet ou elle est venue?
On avait imaginé le projet ensemble.
D'accord.
Elle est libraire.
Rapidement, donnez le nom, peut-être, en profiter. Hein, on vient à vous
régulière.
Voir.
Ça s'appelle La Régulière. On est au 43 rue Mira, en plein cœur de la Goutte d'Or. On ouvre le 18 octobre à 18h30. Et dans le 18e arrondissement.
Donc c'est une librairie, café, lieu d'exposition, c'est ça?
C'est une librairie orientée vers les arts graphiques, la bande dessinée, les livres jeunesse. C'est accompagné d'un espace café qui accueille des ateliers autour du livre et de l'image. Et on organisera également des événements, etc., des trucs sympas. Et on a en ce moment un Ulule sur lequel on récolte des fonds, car comme vous l'avez compris, c'est pas facile. Et donc voilà, vous n'hésitez pas. On est sur Facebook, sur Instagram et donc sur Ulule. Voilà.